Donc, je vais finir mon introduction, conclure mon introduction. Donc, ce matin, je vous disais que le premier mot pour entrer dans le mystère du mal, c'était ce mot « je » qui me permettait de reprendre à compte d'auteur ce qui pourtant faisait que, à un moment donné, je n'écrivais plus ma vie, soit que la souffrance m'écrasait, je n'en peux plus, soit que moi-même, je ne conjuguais plus ma vie en première personne. Qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris ? S'exclame-t-on quand on est soi-même l'auteur du mal qu'on introduit dans le monde. Je parlais de cette première personne, du singulier, ou du pluriel d'ailleurs. Hein, l'Église est peut-être une communauté un peu paradoxale, parce que c'est une communauté qui, puisqu'elle est fondée sur l'amour reçu de Dieu, d'un Dieu miséricordieux, c'est une communauté se réunit autour du fait que, au fond, on pourrait tous être en puissance des excommuniés. Voyez, au fond, c'est pas une communauté qui se fonde sur l'exclusion de celui qui ne serait pas conforme. C'est une communauté qui commence à se rassembler autour de sa non-conformité à l'exigence qui la rassemble. C'est la messe. C'était la messe, par exemple, qui a suivi mon intervention ce matin, où l'on commence par se reconnaître pécheur, c'est-à-dire une communauté qui commence à confesser qu'elle est si loin de son centre, et que ce qui la rassemble, c'est d'être tous ensemble, nous, première personne, cette fois-ci du pluriel, c'est d'être tous ensemble, si éloigné du centre, mais justement, c'est cet éloignement qui rend possible, la confession de cet éloignement, qui rend possible le pardon de Dieu et qui nous rassemble. Et qui nous rassemble. Celui qui pense n'avoir pas de péché, en effet, ne peut pas être pardonné. Hein. Souvenez-vous de ce que dit Jésus à Simon à propos de Marie-Madeleine. Voilà, elle qui a beaucoup péché, il lui est beaucoup remis, il lui est beaucoup pardonné. Mais toi qui crois être absolument sans faute, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Si tu n'as pas cette blessure que tu m'offres pour que je la soigne, si tu ne pleures pas, je ne peux pas te consoler. Là encore, on retrouve cette même idée. Donc vous voyez, entrer dans le mystère du mal, c'est comprendre que ce mystère-là, comme je disais ce matin, nous cerne et nous concerne à rapport avec notre vie. Bon, si vous êtes là, c'est que ça ne vous semble pas totalement impossible, mais quand même, c'est très important de reconnaître même la beauté, comme je le disais ce matin, du mea culpa, de ce péché qu'on va pouvoir offrir parce qu'on le reconnaît comme faisant partie de notre vie. Je vous citais Saint-Exupéry, en effet, on peut avoir raison avec ceux qui ont raison de s'indigner, mais on peut faire mieux, on peut se dire que celui qui nous indigne, eh bien, il est des nôtres. Et on n'aura peut-être pas raison c'est avec ceux qui se targuent d'avoir raison, mais on aura une maison. On habitera la maison commune de cette humanité pécheresse et de cette humanité blessée et blessante. Ça me paraît très important. Ça me paraît même fondateur d'un humanisme dont on a besoin. Vous savez, il y a un texte de Lévi-Strauss, l'ethnologue, le Claude Lévi-Strauss, le grand ethnologue français, qui pense qu'il y a eu trois âges de l'humanisme, et je pense qu'en fait nous sommes entrés dans un quatrième âge de l'humanisme. Je vous donne rapidement les trois âges de l'humanisme. Si vous voulez, je vous écris Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, hop. Et il pense que le premier âge de l'humanisme, historiquement c'est comme ça, c'est la Renaissance, c'est la redécouverte des manuscrits d'Aristote et un retour, hein, la Renaissance, c'est autoproclamée Renaissance, à nommer ce qui était entre la naissance de l'humanité, l'Antiquité, et elle, bah, le Moyen-Âge, l'âge moyen, l'âge médian. Bon, on a un peu mis ça entre parenthèses, du coup. Et là, il y avait une renaissance, grâce à quoi ? À la redécouverte des manuscrits d'Aristote et à la redécouverte du coup de toute l'Antiquité. Renaissance, et c'est l'humanisme, l'humanisme qui se fonde sur un dépaysement, on se dépayse grâce à une découverte, une redécouverte de l'Antiquité. Il y a un deuxième humanisme, d'après Claude Lévi-Strauss, dans sa lettre sur les trois humanismes, qui est l'humanisme des Lumières. Cette fois-ci, c'est l'Inde et la Chine qui passionnent les hommes des Lumières et qui fondent pour lui un humanisme non plus aristocrate lié à l'Antiquité grecque, mais un humanisme bourgeois lié à la découverte donc de l'Inde et de la Chine. Un humanisme des gens cultivés. Et puis il dit, on est arrivé au XXe siècle à l'étude très précise, en fondant l'ethnologie, de ces peuplades qui sont bien moins nobles que l'Antiquité grecque et que la Chine et l'Inde, d'autant que ce qui nous venait de la Chine et l'Inde était des écrits, des monuments, bref, à chaque fois, c'était le sommet de la civilisation que nous recevions, soit de l'Antiquité grecque, soit de la Chine et l'Inde, un humanisme des peuples qui sont sans technique très avancée, et sans écriture, et même sans état, c'est-à-dire les peuples primitifs, ceux qu'on a découverts à partir de 1492, découverte de l'Amérique, etc., et dont on a fait la science à partir du 19e et surtout 20e siècle avec l'ethnologie. Et il dit, ça c'est un vrai humanisme, et c'est un vrai humanisme démocratique, ni aristocratique ni bourgeois, mais vraiment démocratique, parce qu'il s'agit là encore de se dépayser, d'accepter de changer de continent, de changer de façon de percevoir, et en adoptant le point de vue, en voyant à quel point ces hommes-là étaient aussi des hommes, quoique n'ayant, comme je vous l'ai dit, ni techniques avancées, ni écriture, ni société politique stable. Ou plutôt, oui, c'est ça, ni société politique, en tout cas de type étatique. Et en effet, la phrase de Terence, qui était un poète latin, « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger », elle est facile de l'appliquer quand on l'applique à l'Antiquité grecque, à la Chine et l'Inde, mais maintenant, nous dit Claude Lévi-Strauss, il faut l'appliquer aussi à ces peuples primitifs et reconnaître qu'ils sont humains comme nous, et ça, c'est un vrai dépaysement. Or, je crois qu'il y a un quatrième humanisme, encore plus exigeant que celui que nous propose Claude Lévi-Strauss comme étant le troisième humanisme, un quatrième humanisme qui est lié à la découverte d'un nouveau continent, non pas spatial, géographique, mais plutôt intérieur, qui est que le XXe siècle nous a montré tout le mal que l'homme pouvait faire à l'homme. Alors, on le pouvait le pressentir, il y a bien des choses qui étaient racontées dans les livres d'histoire. Avant, il y avait bien des choses qui... Mais mine de rien, au XXe siècle, on a comme découvert que l'homme était capable d'organiser la barbarie, de la penser, de la planifier. Bref, on a découvert un quatrième continent qu'on pourrait appeler l'inhumanité de l'homme. L'inhumanité de l'homme. Et d'ailleurs, on a formulé à ce propos... même si c'est très discutable, l'idée de crime contre l'humanité. C'est discutable, pas vraiment en soi, mais dans l'utilisation qu'on en peut faire. Je fais une toute petite parenthèse, mais par exemple, quand François Hollande, juste après le 13 novembre, sur le Charles de Gaulle, a dit aux armées françaises qui partaient en guerre contre Daesh, « Vous n'êtes pas les soldats de la France, vous êtes les soldats de l'humanité », eh bien, ça voulait suggérer qu'en face, il n'avait pas des... c'était plus des hommes, il devait combattre le mal absolu, le mal en soi. Et faut toujours se méfier quand on dit l'humanité de notre côté, parce que sinon, ça suggère très qu'en face de soi, je ne sais pas ce qu'on a, en tout cas, c'est plus des hommes. Non, le problème, c'est que on a en face de soi peut-être en effet quelque chose qu'on ne peut pas ne pas nommer mauvais, mais qui c'est encore bel et bien des hommes. Et justement... C'est le quatrième humanisme, pour moi, c'est dire rien de ce qui est humain ne m'est étranger, mais même rien de ce qui est, d'où le titre de mon dernier livre, rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. Oser, si vous voulez, mettre la première personne du singulier à cet endroit-là, oser mettre son humanité dans cette inhumanité en reconnaissant que, en effet, l'humain, c'était aussi... la possibilité de la construction d'un régime proprement inhumain, l'homme pouvait inventer, la liberté humaine pouvait inventer le contraire de la liberté humaine, la vie humaine pouvait construire des structures qui sont la négation même de la vie humaine, etc. etc. Hein, le XXe siècle, c'est un continent. Si on devait le découper, c'est l'histoire beaucoup plus tard qui va nous dire quel est le découpage du XXe siècle, on ne le sait pas trop, mais mine de rien, si on le faisait commencer avec le génocide arménien, si on le faisait finir avec le génocide rwandais, si entre-temps on mettait les génocides nazis et communistes, eh bien on aurait un XXe siècle. Alors vous allez me dire, c'est pas très gai, mais justement, là encore, c'est pas gai, si vous voulez, si parce que ça n'est pas gai, on le nie, où on accuse, on dit oui, c'était des barbares, c'était avant, mais c'était à notre porte. Hein. Une fois, j'ai fait une conférence avec quelqu'un qui disait on va vers le progrès, je veux dire, on n'arrête pas d'aller vers le progrès. Et puis il disait, quand on voit ce que c'était que le passé, et puis le passé, il nous met des événements d'il y a 40 ans. Alors, il veut dire, bah, le passé, c'est encore le présent dans ce cas-là. Mais si vous voulez, le problème pour moi, ça n'est pas de regarder avec lucidité tout le mal que l'homme peut faire à l'homme. Finalement, la croix nous invite à regarder avec lucidité tout le mal que l'homme peut faire à un homme, au nom de la religion, Caïphe, et de l'État, Pilate. Voyez, bon. Le problème, ça n'est pas cette lucidité. Le problème, c'est est-ce qu'on en fait un point d'arrivée désespéré, bon, bien, tout est fichu, ou un point de départ. Un point de départ, on constate ça. On est arrivé sur ce continent, on ne peut pas ne pas le voir. Et est-ce que, à partir de là, on va dire, eh bien, prenons ça avec nous. En effet, être humaniste aujourd'hui, c'est dire rien de ce qui est inhumain ne nous est étranger. L'homme est capable de ça. Et le mal, c'est notre affaire à tous. Alors, vous avez peut-être vu, il est passé récemment sur Arte, le film qui a été fait autour de Hannah Arendt et surtout ceux qui avaient choisi de découper une tranche de vie d'Hannah Arendt, ils avaient choisi la façon dont a été reçu les articles qu'elle avait écrits pour le New York Times, le Times, sur le procès Eichmann. Et donc Hannah Arendt, juive d'origine, qui couvre le procès de Adolf Eichmann et qui décrit non pas un monstre, un diable, etc., mais un fonctionnaire zélé, pas très intelligent, et puis surtout qui renonçait très volontiers à sa responsabilité. Et puis dedans, elle a eu quelques allusions au capot, enfin à tout un système à quoi finalement, dit-elle, chacun, enfin, auquel chacun aurait pu participer, et à quoi même certains juifs participaient. C'était un scandale parce que elle a pu parler de la banalité du mal, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'on aurait fait nous-mêmes, etc., etc. Et c'était un scandale parce que dire ça à cette époque, et au fond c'était 15 ans après, c'était peut-être trop tôt si vous voulez, mais voilà, reconnaître que le mal est tapis à notre porte, comme il est dit dans la Bible, c'est assez difficile. Et donc ce qu'on préfère, c'est ce que Philippe Meret, je le cite, non, rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger, appelle le jacuzzi. Le jacuzzi, c'est ce bain de certitude, on est des gens bien, qui nous massent comme ça, on rentre dans son jacuzzi, et qui nous permet d'accuser les autres. Le j'accuse, Philippe Meret dit depuis, on se prend tous pour des Zola, on accuse à tour de bras, on accuse, on s'indigne, indignez-vous. Indignez-vous qui veut dire indigne êtes-vous de notre humanité, alors qu'en fait, quand on pense comme ça, voyez, on pense que l'humanité est un idéal et que certains ne sont pas encore montés assez haut, assez proches de cet idéal d'humanité, alors que peut-être l'humanité, c'est plutôt une condition. Et c'est plutôt une condition et qu'il s'agit moins de devenir humain que de remarquer à quel point nous le sommes. Et remarquer à quel point nous sommes humains, c'est remarquer à quel point nous sommes toujours, possiblement, des êtres qui pouvons porter au monde notre part de désordre, notre part de mensonge, notre part de blessure, et que tous nos actes sont ambivalents. Pour le dire autrement, et c'est ça le dogme du péché originel, il n'y a pas d'homme pur, il n'y a que des hommes sauvés, ou plutôt parce qu'il n'y a pas d'homme pur, d'hommes qui soient purement des anges, c'est pour ça que nous pouvons être sauvés. Mais nous, on aimerait bien qu'il y ait des hommes purs. Les philosophes se sont imaginé des états. Enfin voilà. Mais dans ce monde, il y a quelque chose, voilà, qu'on le veuille ou non, qui dans notre volonté, qui est fragile, qui est faillible, etc. Et commencer, vous voyez, je ne dis pas finir par désespérer, être cynique, l'homme n'est qu'un menteur, et bon, non mais, voilà, le problème, ce n'est pas regarder lucidement l'homme, c'est est-ce que j'en fais un point d'arrivée, désespéré, ou est-ce que j'en fais un nouveau point de départ? Est-ce que ma chute, je n'en ferai pas finalement un point de chute, dire, bon bah, j'en suis là, et je rayonne à partir de là. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie, que finalement... là où nous sommes tombés, eh bien, c'est peut-être un bon point de départ pour aller creuser, pour non pas tout de suite se relever en disant non, le mal, ça ne me concerne pas, mais au contraire, creuser. Ce matin, je vous disais, de profundis, domine ad te clamavi, de l'abîme, Seigneur, je t'invoque, je crie vers toi. Eh bien, c'est de l'abîme qu'on peut crier vers le Seigneur. C'est là que notre cri retentit le mieux. Si l'on veut toujours... se tenir à un niveau de respectabilité supérieur, eh bien peut-être que notre cri n'a pas assez de profondeur autour de lui pour porter son écho jusqu'au Seigneur. Quand on se croit quitte du mal qui se fait sur terre, eh bien peut-être qu'on reste à la surface de notre humanité. À la surface de notre humanité. Vous savez, humanité, ça vient de humus, qui veut dire la terre. Humilier quelqu'un, humus, c'est le rabaisser plus bas que terre. D'accord ? L'humilité, c'est savoir qu'on n'est pas encore au ciel, qu'on est tout proche de la terre. Voyez, et au fond, parfois, quand on tombe, eh bien, peut-être qu'au lieu de commencer à se relever en disant « Oui, je suis tombé, mais quand même, je suis quelqu'un de bien », eh bien, tombons et creusons. Et creusons pour découvrir le mystère de ce Dieu qui entend notre cri, mais peut-être à condition qu'il soit prononcé « de profundis », c'est-à-dire de l'abîme, et non pas de son haut degré prétendu de respectabilité. Voilà, donc c'est la fin de mon introduction. Dire je n'en peux plus, dire cette faute je l'ai fait. Bref, le premier mot qui est la première arme contre le mal, c'est de dire que le mal est aussi mon affaire. Allez, je recevais aujourd'hui la réaction d'un lecteur de La Croix, parce que j'avais fait un billet dans La Croix. Je dis souvent à mes élèves, je cite souvent à mes élèves cette phrase de Paul Valéry qui me paraît très très importante, et c'est pour ça que je suis content de vous la partager. Paul Valéry disait « Penser est une exception à une règle générale, ne pas penser. » Penser est une exception à une règle générale, ne pas penser. La plupart du temps, on ne pense pas. La plupart du temps, c'est comme Google. On enchaîne rapidement, on enchaîne en un maximum de temps. Un minimum de temps, un maximum d'informations, on croit que c'est ça penser. Bon, or, penser, c'est tout l'inverse, c'est pour ça que le moteur de recherche n'est peut-être pas encore de la pensée, c'est faire un minimum d'associations, d'idées, dans un maximum de temps, c'est dire, laisse-moi y réfléchir. Voilà, c'est peut-être même ça, prier, c'est arrêter les associations d'idées. Non pas, hein, on dira, mais l'intelligence artificielle, quand on voit Google, on tape un mot-clé, c'est un maximum d'associations d'idées dans un minimum de temps. Penser, c'est justement c'est tarir le flux des associations d'idées. C'est laisser venir la question, c'est être attentif, dirait Simone Weil. C'est-à-dire, un minimum d'associations d'idées dans un maximum de temps. Et en effet, la plupart du temps, nous sommes un peu mécaniques dans nos pensées, ça va vite. Et penser, c'est rare. Je dis à mes élèves, vous savez, penser, c'est rare. Parler, c'est rare. Parler est une exception, une règle générale. Bavarder. D'accord ? Aimer, c'est rare. La plupart du temps, donner vraiment, c'est rare. Et ayez conscience de cette rareté-là, sinon vous mettez en pilote automatique dans votre vie, et c'est plus une vie en première personne. Et donc, je leur dis ça souvent, et donc, je leur dis, mais quand vous entendez une phrase qui traîne comme ça, eh bien, et que tout le monde répète, dites-vous que ça n'est pas de la pensée, et que si vous voulez qu'il y ait de la pensée, bah, commencez par la problématiser. Hein. Vous avez Léon Blois qui avait fait en son temps une exégèse des lieux communs. Si vous voulez, je vous note son nom aussi. Léon Blois, exégèse des lieux communs. Il prenait tous les lieux communs de l'époque. Et Jacques Ellul a fait, un siècle plus tard, une nouvelle exégèse des lieux communs. Vous prenez un lieu commun et vous le renversez. Et, bon. Et là, le lieu commun, c'était que j'entendais partout... Enfin, je faisais un trajet en voiture et c'était le téléphone sonne de France Inter et il parlait de l'affaire Fillon. Tout le monde était complètement indigné, scandalisé, etc. Et tout le monde disait, oui, mais sans rentrer dans le tous pourri. Sans rentrer dans le tous pourri... Quand même, les hommes politiques, sans rentrer dans le tous pourri, sans rentrer, les journalistes, oui, sans donner dans le tous pourri. Et je me disais, tiens, mais comme c'est étrange. Personne ne veut rentrer dans le tous pourri. Eh bien, au fond, pourquoi pas? Prenons, voilà, il y a cette réserve-là, interrogeons-la. Et pourquoi pas tous pourris, au fond? Pourquoi pas partir, en effet, du fait qu'il y a quelque chose dans notre humanité qui... Voilà, en gros, voilà, nous on attend l'homme absolument bon, qui sera absolument irréprochable, absolument. Mais on sait bien, on sait. Mes élèves, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez sur cette classe politique, etc. Et c'est peut-être un peu facile, mais je leur ai dit, vraiment, soyez très sincères. Si vous levez la main, je vous croirai. Je vous croirai parce que ça arrive aussi. Mais qui d'entre vous, dans cette classe, ils sont 52 en Cagne, qui d'entre vous n'a jamais triché? Bon, ben j'ai eu zéro le doigt levé. Bon. Mais aussi, au fond, vous voyez, dans cet article que j'ai écrit dans La Croix, je disais, mais méfions-nous en effet de notre indignation, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Souvent, très souvent, les plus gros cailloux viennent de ceux qui, les lançant, pensent avoir des mains plus pures. D'accord? On se dit, mais plus je vais jeter de gros cailloux, plus je vais acheter mon innocence. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, ça ne marche plus comme ça avec Jésus. Ça marchait comme ça avec les religions du bouc émissaire. D'accord? Ça marchait comme ça dans les mouvements de foule. Ça marche comme ça dans les mouvements de foule. Plus je vais aller cracher sur ce Jésus-là. Et si je crache, c'est que je suis quelqu'un de bien parce que lui, c'est le mauvais, puisqu'en fait, on est en train de le crucifier. C'est des mécanismes que Jésus a enrayés. Et qui ne fonctionne plus. C'est pas parce que je tonds des femmes à la libération que j'ai été un grand résistant. Et même les résistants racontaient l'inverse. Ils disaient en général les gars qui revenaient du maquis, ils en avaient marre de la violence, ils en pouvaient plus, et ils voyaient des gens de la dernière heure très ailés qui au fond cette illusion qui consiste à dire que plus on a de force d'accusation en soi, plus on est innocent du mal. Voilà, pour le dire très simplement, je suis innocent du mal que je dénonce parce que je le dénonce. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. On n'est pas innocent du mal qu'on dénonce parce qu'on le dénonce. Alors voilà, fin de mon introduction. Le mal est quelque chose qui est mon affaire, quelque chose... Et au fond, plus je crois que c'est l'affaire des autres, plus j'oublie que c'est aussi la mienne. Alors maintenant, dans une première partie, je vais entrer dans les différentes distinctions conceptuelles qui vont nous permettre d'éclairer l'événement, le phénomène du mal, l'événement du mal, le mystère du mal. Je vais faire trois ou quatre distinctions conceptuelles. La première, ça va être entre malheur et malice. Vous l'avez déjà comprise, mais je vais la reprendre pour vous montrer que c'est très important de distinguer ça. Ensuite, on va faire une distinction conceptuelle entre le mal et le bien. On va voir plutôt comment ça s'articule, le mal et le bien. Et enfin, on fera une distinction conceptuelle que je fais dans mon livre. On en fera encore deux autres. Entre les différentes façons de faire le mal. Et enfin, entre les différents phénomènes du mal auxquels nous sommes confrontés dans notre vie. De toute façon, je vous donne la main et je vous dis à chaque fois, en gros, il y aura quatre parties dans cette première partie. Alors, première partie, d'abord, distinction entre le malheur et la malice. Le malheur, c'est le mal subi. La malice, c'est le mal qu'on fait. D'accord ? Hein, on peut parfois subir un malheur, je veux dire, vous traversez la route, quelqu'un ne vous a pas vu, il vous fonce dedans, c'est un malheur, vous étiez sur le passage piéton, vous n'y pouvez rien, c'est un malheur. Bon. Parfois, c'est la malice, hein, vous êtes pressé, vous doublez quelqu'un par la droite, et sur l'autoroute, il est obligé de piler, vous manquez de l'envoyer dans le fossé, après vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai failli tuer quelqu'un, bon. Ouh là là, bon. Ce sont deux choses qu'il faut bien distinguer. Pourquoi ? Alors, je réfléchissais à ça pour vous, parce que il y a deux phénomènes de croisement entre le malheur et la malice. Parfois, la victime d'un malheur va culpabiliser comme si son malheur, le mal subi, prouvait sa malice. Vous voyez, ce qui est très très étrange, et c'est le premier phénomène qu'il faut démêler, à mon avis, c'est cette propension de la victime à croire qu'elle mérite quelque chose du mal qui s'abat sur elle. Vous voyez, quand on tombe dans la rue, on se relève très vite et en disant « non mais tout va bien », alors sans doute pour cette raison que j'explorais un peu ce matin, pour faire comme si ça n'avait pas eu lieu, essayer de revenir à un instant T-1 avant la chute, on se relève et puis on a honte de soi. D'accord ? Alors qu'au fond, on est tombé, on n'y peut rien, on n'est pas méchant d'être tombé dans la rue, je veux dire. Bon. Mais on a honte de soi, on se dit « et puis on se dit mais voilà, et ou alors quand un malheur tombe sur nous, on va dire mais alors on peut clamer son innocence, pourquoi moi, pourquoi maintenant, etc. Pourquoi maintenant, ça me fait toujours rire, comme si les épreuves de notre vie arrivaient toujours à point nommé. Ah, je suis très content que cette épreuve arrive maintenant, super, ça tombe bien, en plus là j'avais un peu de temps libre. Bon, en général, on dit mais pourquoi maintenant ? Mais de toute façon, il n'y a aucune épreuve, par définition, n'arrive en un temps souhaité, désiré, etc. Bon. Mais, voyez, assez spontanément, quand quelque chose nous blesse, il se pourrait que on devienne soi-même comme le co-auteur du malheur qui nous arrive. Où on se dit, mais si ça m'arrive, peut-être que je l'ai bien mérité. Ou c'est un peu le principe aussi de l'insulte. Cette année, avec mes élèves, on a les sciences humaines, je leur ai fait de la linguistique. On a vu que dans l'insulte, il y a une part d'implicite très très forte dans l'insulte, parce qu'il fallait toujours faire semblant, quand on insulte quelqu'un, qu'on lui attribue, en réalité, quelque chose d'objectif. Hein, on ne dit pas, vraiment, après réflexion, je pense que tu es un connard, parce que, mais ça n'engage que moi, voilà. Et on ne va pas dire ça à quelqu'un, on va dire connard, c'est-à-dire c'est écrit sur ton front. Bon. Et d'ailleurs, les enfants ne s'y trompent pas, ils disent c'est celui qui dit qui est, c'est-à-dire au fond, c'est pas parce que tu trouves que je le suis que j'en suis un, etc. Mais si vous voulez, je me souviens comme ça d'une voisine qui était très très bizarre et puis qui en voulait à ma femme. Et ma femme disait, mais c'est marrant parce que ça avait été même jusqu'à l'insulte alors qu'on lui avait rien demandé, enfin elle faisait une fixette, bon, sur. C'était très étrange. Et Cécile, mon épouse, disait, mais c'est bizarre parce que quand quelqu'un t'insulte, t'as toujours l'impression, même si les insultes sont absurdes, qu'elle a réussi à percer quelque chose de ta personnalité. C'est comme si... Et donc, vous voyez, le malheur, même qui nous arrive à cause de la malice de quelqu'un ou à cause du hasard, eh bien, parfois, on a tendance à mélanger et à culpabiliser du mal qui nous arrive. Ça, c'est le premier phénomène qui fait qu'à mon avis, il est quand même très important de distinguer malheur et malice. Et d'autre part, il y a un deuxième phénomène. Quand on est victime, la victime peut non pas culpabiliser, alors même qu'elle n'y peut rien. Pensez dans le premier phénomène même à ces femmes qui culpabilisent d'avoir été violées. Bon. Mais c'est très très étrange, hein, le fait que le malheur, on a l'impression que c'est lié à notre propre malice. Bon. Mais deuxièmement, aussi, quand il y a du malheur, parfois, on se met à accuser, à devenir des accusateurs, donc non pas de soi-même, ça c'est le premier phénomène, mais des autres, comme si tout malheur avait pour source une malice. Or, il y a des malheurs où il n'y a personne à accuser. Donc vous voyez, j'espère que j'ai été clair, mais en gros, on mélange très spontanément le mal subi et le mal qu'on nous fait, le mal subi, le mal qu'on fait. D'une part, quand on subit un mal, on croit que c'est parce qu'on fait un mal, alors que parfois ça n'est pas vrai. Parfois il faut vraiment distinguer les deux cas. Ou alors, quand on subit un mal, on cherche nécessairement un coupable, c'est-à-dire soit soi, soit un autre que soi. Pour vous faire comprendre ça, je vais juste vous raconter quelque chose qui a vraiment eu lieu. C'est très rigolo, c'est une sorte de parabole réelle. C'est une maison à 3 étages. Au 3e étage, il y avait habité à l'époque ma mère. Et les 3 étages s'étaient fait escroquer, vraiment. Voilà, et dont ma propre mère. Et c'était rigolo de voir les réactions des trois locataires. Donc, ma mère avait pris une location dans une maison et c'était des avocats qui s'occupaient de... En fait, c'était un ancien cabinet d'avocats et qui, c'était très avantageux au niveau du loyer, étaient très contents. Donc, ils ont retrouvé 3 locataires très rapidement, juste après avoir converti leur cabinet d'avocats qui étaient des anciens appartements en nouveaux appartements. Bon, ça leur avait pas demandé beaucoup de travail. Et puis avec des loyers tout à fait avantageux, et puis et avec un engagement qui ne ferait pas d'augmentation de loyer sur au moins pendant 2 ans. Et puis tout le monde avait été très content, les 2 avocats super sympas. Et puis ma mère avait remarqué que sur le bail, c'était pas du tout marqué cette clause de non-augmentation. Donc elle dit, ah non, oui, c'est vrai, non mais faites-nous confiance, vraiment faites-nous confiance. Par contre là, je dois aller à Paris et tout. Elle avait signé, elle avait fait confiance. Vous pensez, peut-être 2 mois après, le loyer était multiplié par 2 ou 3 mois après, et pour les 3 étages, et les 3 personnes enragées, et ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient parfaitement dans leurs droits. Et leur droit, ils le connaissaient très bien, pour cause, c'était des avocats. Et il y avait vraiment, ma mère, alors les 3 étaient obligés de partir parce que ce n'était pas du tout le loyer qui était dans leur budget. Et il y a eu 3 réactions différentes, parce que du coup, bien sûr, ils étaient en colère, etc. Le premier, il disait, c'est salaud, les avocats, c'est des salauds. Bon, voilà la généralisation, et moi, je partirai pas sans avoir saboté les trucs, etc. Bon, la vengeance, et on comprend. Bon. Le 2e étage, c'était pas l'accusation de l'autre, c'était pas la révolte, c'était l'auto-accusation. Mais vraiment, on est trop, trop cons. On a été trop cons. Au fond, ils nous ont eu à un jeu dont on n'a pas pris soin de connaître les règles. Moi, j'aurais dû, en effet, je leur ai fait confiance, mais vraiment, on est trop bons, trop cons, etc. Et ça, c'était l'auto-accusation. Voilà, le mal qu'on m'a fait, c'est de ma faute. Et ma mère, elle disait, non, au fond, on a eu raison de leur faire confiance. Moi, quelqu'un qui me dit « faites-moi confiance », je lui fais confiance. Et encore heureux. Et encore heureux que je lui fais confiance, parce que sinon, on doit tout faire passer sur le mode du contrat. Donc, peut-être un peu trop, trop bon, trop con, mais on est tellement rarement bon que parfois, il faut être un peu trop con pour l'être un peu. Donc, au fond, elle leur disait « mais calmez-vous ». Alors, elle disait au premier... Je me souviens, on va devoir déménager, c'est très, très contrariant, au niveau de la justice, on ne peut absolument rien faire, mais ça, comme on dit, ils ne l'emporteront pas au paradis. Je veux dire, quelle conscience ils ont, nous, le truc qu'on peut faire, c'est un peu s'entraider, on entend parler de trucs à peu près au même prix qui se libèrent et tout, bon, mais de toute façon, on ne peut rien faire, donc les haïr, mais de toute façon, on ne va plus les voir, ils envoient toujours des autres personnes, bon. Même si, bien sûr, on comprend. Et par rapport à celui qui s'auto-accusait, elle disait « Non, je crois qu'on a eu raison. Je crois que vraiment, on a eu raison de faire confiance, même si on s'est fait avoir. Parce que sinon... » Et donc, ne pas entrer dans l'auto-accusation. Vous voyez, au fond, heureusement qu'on est dans un monde où, quand quelqu'un dit « Mais vrai, vous avez ma parole. Oui, je ne l'ai pas mis dans le contrat, mais vous avez ma parole d'homme. » Eh bien, au fond... Peut-être qu'on est encore dans un monde où on dit « bah très bien, oui d'accord, je vous fais confiance ». Et puis après, la personne n'honore pas la confiance qu'on lui fait. Voilà, j'ai envie de dire, c'est presque son problème, même si évidemment c'est nous qui perdons 3 000 euros ou 4 000 euros, mais c'est son problème, c'est son problème. Voyez. Et au fond, distinguer le malheur et la malice, c'est par exemple, ici, oui, c'est peut-être un petit malheur, mais c'est quand même un mal qu'on nous fait, un mal qui est subi, et dire, bah ouais, c'est un mal qui est subi, mais au fond, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas à faire comme le deuxième étage, à rentrer dans l'auto-accusation, j'aurais dû me méfier, et puis à étouffer en nous le désir du bien, la prochaine fois je me ferai pas avoir, la prochaine fois je serai plus malin, comme le malin, je serai plus malin que l'autre, et donc encore plus diabolique que lui, etc., etc. Non, on a fait ce qu'il fallait faire. Moi, si c'était à refaire, peut-être pas exactement pareil, mais si c'était à refaire, mais ou alors j'expliquerai à la personne, vous savez, je me suis fait avoir une fois, alors on va vraiment faire le contrat, mais par contre, si quelqu'un me disait, mais faites-moi confiance, je crois que je lui referai confiance, parce que sinon, où on va? Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément cette propension de la victime à croire qu'elle mérite le mal qu'on lui fait, non, alors vous allez me dire, mais est-ce que ça ne contredit pas l'introduction? Le discernement veut que parfois on reconnaisse la juste part de notre innocence, non pas pour se croire absolument innocent, d'accord, mais pour ne pas non plus croire que on mérite toujours son malheur. C'est très important de savoir clamer son innocence. Vous savez, comme Job, il le fait dans le livre de Job. Job, au fond, ses amis viennent lui dire que s'il... Enfin, viennent lui dire, il se taise quand même pendant 7 jours, je crois, quand il voit Job qui a tout perdu, et non seulement ses biens, ses enfants, mais aussi le bien de la santé, il a tout perdu en quelques jours, et au fond, Job, ce qu'il fait, c'est qu'il clame son innocence. Il dit, je suis innocent de ce mal qui m'abat. Ça n'est pas, non, je ne le mérite pas. Et je trouve que c'est important de, voyez, autant de ne pas se croire quitte du combat spirituel qui a lieu dans notre monde, de se dire que le combat spirituel, c'est aussi le nôtre, autant c'est important de reconnaître que l'insulte que l'autre nous envoie est peut-être tout simplement injuste. Voilà, de discerner pour démêler le malheur et la malice. Le mal qu'on me fait n'est pas forcément mérité. Le mal qu'on me fait n'est pas forcément mérité. Si cet enfant est aveugle, qui a péché? Ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents? Et Jésus dit, ce mal-là, ça n'a rien à voir avec le péché des générations antérieures. Ce mal-là, par contre, est pour moi l'occasion d'un bien. Vous voyez, faire du mal, non pas une enquête sur le coupable et peut-être qui est le coupable, mais en faire toujours l'occasion d'un bien, c'est exactement ce que fait Jésus. Il ne répond pas ici au mal que subit l'enfant par l'enquête sur quelle est la source, il en fait l'occasion d'un bien plus grand, c'est-à-dire de la révélation de la puissance du Dieu d'amour. Voilà donc, malheur et malice, vraiment les distinguer, et donc aussi reconnaître qu'il n'y a pas forcément aussi, comme je le disais, dès qu'il y a un malheur qui nous fait mal, on peut accuser l'autre, alors que parfois il y a des malheurs où je me souviens d'avoir marché lors d'un pèlerinage avec quelqu'un, il avait forcément respect, comme on dit, quelqu'un qui me disait, ah mais ça serait bien que après le pèlerinage, je te fasse rencontrer ma femme et mes 4 enfants, et ma femme est quelqu'un d'extraordinaire, etc. Et puis il m'a un peu parlé d'elle, et il me disait que ça faisait 20 ans qu'elle se battait contre une leucémie, qu'il pensait même ne pas avoir d'autres enfants que leur premier enfant, et puis qu'ils en avaient eu 3 autres, et il disait, en fait, la leucémie vient des vaccins contre l'hépatite B. Et je lui dis, ah oui, et il dit oui. Et je dis, est-ce que vous avez poursuivi? Enfin, est-ce que vous avez fait une démarche pour... parce que ça s'est avéré. Il dit, ah non, on s'est renseigné et globalement, ce vaccin fait du bien. On est dans des proportions de 98-99% Non, non, c'est renseigné globalement et il y a juste quelques personnes qui payent le prix fort de ce vaccin-là. Et mon épouse en fait partie. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, vous voyez, dans leur malheur, il n'y avait pas de la malice. Il n'y avait pas de malice. Et ben, alors, vraiment, j'ai été bluffé. C'est-à-dire, et en plus, ils n'en tenaient. Ils disent, voilà, nous, on profite d'autres vaccins qui, ça se trouve, font beaucoup de mal. Mais c'est toujours comme ça. Alors, il m'a dit, hein, il s'était renseigné à l'époque, mais il avait dit, non, non, on a fait taire cette colère. Il y avait juste un nouvel élément à apprivoiser dans notre vie. Et là, il n'y avait pas d'ennemi à combattre. Il y avait du malheur, mais il n'y avait pas de malice derrière. Il y avait plutôt même un bien, c'est-à-dire un vaccin qui faisait du bien. Enfin bref, j'avoue que moi je sais pas ce que j'aurais fait d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on ferait, mais on aurait pu imaginer qu'ils se mettent dans un collectif, naturopathe ou que sais-je, et puis ils disaient non, non, on s'est renseigné, il n'y avait pas de mal en fait. Il n'y avait pas de mal au sens de malice. Par contre, il y avait un malheur pour notre famille. Et donc, vous voyez, bien distinguer les deux, ça me paraît très important. Il n'y a pas toujours de la malice dans mon malheur. Souvenez-vous de la piscine de ce matin. Si tu es éclaboussé au bain public, c'est parce qu'il y a de l'eau et qu'il y a des autres. Il n'y a pas de malice là-dedans. Dans ton malheur, hein, très relatif d'ailleurs. Mais il n'y a pas de malice là-dedans. D'accord? Voilà. Et alors, juste par rapport, je voulais juste évoquer ça avec vous, par rapport au fait que quand il y a un malheur qui s'abat sur nous, on se met à soupçonner sa propre malice. C'est-à-dire, on se met peut-être à dire, mais ce mal m'a sali. Et notamment, je pensais à une étudiante qui avait été agressée enfin, l'année avant que je l'aie. Et par contre, le procès de son agresseur avait lieu l'année pendant laquelle je l'avais. Et elle n'arrivait pas à y aller, à ce procès-là. Deux fois de suite, elle ne s'était pas rendue. Et là, la troisième fois, si elle ne se rendait pas, c'était classé, etc. Et puis, elle m'en avait parlé. Alors, je l'avais encouragée, autant qu'il était en mon pouvoir, d'y aller. Et en fait, je lui avais dit, mais évidemment, je comprends. Finalement, cet homme-là, ça n'avait pas été très très grave, mais quand même, ça avait été choquant pour elle. Cet homme-là, voilà, voilà, vous êtes à un âge où vous voulez être séduisante, et du coup, vous dites, mais finalement, est-ce que il connaît pas, il sait pas quelque chose de ma propre perversité? Je lui disais, mais vouloir être séduisante et belle, c'est pas vouloir aguicher, ce sont deux choses différentes. Et quand bien même vous voudriez être très séduisante, mine de rien, on passe par le consentement de l'autre. Enfin, j'essayais vraiment de lui dire que dans son attitude, il y avait, voilà, je disais, ne prenez pas en effet des risques inutiles, mais voilà, et j'analysais avec elle le fait que ce mal qu'on lui avait fait réveillait sa propre culpabilité. Et je lui disais, mais, et puis je lui disais, mais, et puis même, quand bien même, on a parfois des attitudes ambivalentes, mine de rien, vous ne vouliez pas agresser, etc., etc. Et alors, avec elle, je réfléchissais sur le fait que, de toute façon, le mal qu'on nous fait perdre d'un seul coup notre innocence. Hein, je vous donne une phrase de Jean-Luc Marion, ça s'écrit comme le prénom Marion, dans Prolégomène à la charité, ou de la charité, je ne me souviens plus, qui, je vous la dis lentement, et si vous voulez, je vous ferai une petite feuille de texte et que je vous la distribuerai. Jean-Luc Marion, à la fin de Prolégomène à la charité, dit ceci: c'est ici que le mal remporte son premier triomphe décisif. Il impose à celui qui souffre de soutenir son innocence par une accusation, de perpétuer la souffrance par l'exigence d'une autre souffrance. C'est-à-dire que elle voulait rester, elle voulait pas se rendre à ce procès-là, parce que elle voulait, comme quand on est tombé, revenir à l'instant T-1 de la chute pour que ça n'ait pas lieu. Et en effet, ce qui est terrible avec le mal, son premier triomphe décisif, c'est que le mal impose à celui qui souffre de soutenir son innocence par une accusation. Vous voyez, et c'est ça qui est terrible, c'est soutenir son innocence par une accusation. La preuve que je suis innocente, c'est que je deviens un accusateur. De toute façon, même soutenir son innocence, il faut être sorti de l'innocence pour avoir à soutenir son innocence. Et en plus, c'est par une accusation, et en plus, c'est pour que l'autre soit enfermé, soit mis hors d'état de nuire, etc. Donc qu'on le veuille ou non, le mal nous a déjà salis. C'est trop tard, voyez, pour garder son innocence. Quand le mal attaque, l'innocence est perdue. Est perdue. L'innocence, si c'est l'immaculée, la blancheur, eh bien, dès lors que le mal la salit, elle est salie. Et la trace sur le drap blanc se voit. D'ailleurs, c'est le piège dans lequel ses amis de Job, les amis de Job le prennent, Job, c'est que il dit, mais tu dois bien l'avoir mérité ce que tu as fait, tu dois bien l'avoir mérité ce qui t'est arrivé. Et lui, il soutient son innocence par une accusation, ça finit par dire, mais voilà, il aurait mieux voulu, il n'aurait mieux valu qu'il ne voit pas le jour qui m'a vu naître, et quel est ce Dieu qui se rit, qui se moque du malheur des innocents, etc. Et là, ses amis disent, voilà, en tout cas, si tu ne l'avais pas mérité, le mal qui t'est arrivé, ben maintenant tu le mérites. Bon, voyez, et au fond, on aimerait bien que rester au seuil, on aimerait bien garder cette innocence que le mal nous a fait définitivement perdre, et en effet, n'être pas amené, pour reprendre les mots de Jean-Luc Marion, à perpétuer la souffrance par l'exigence d'une autre souffrance. On aimerait bien ne pas rentrer là-dedans. On aimerait bien, et ça explique pourquoi, si vous voulez, on confond le malheur, c'est-à-dire le mal subi, avec sa propre malice, parce que, de toute façon, le mal nous demande de rentrer dans sa mécanique. Et la question, du coup, c'est comment entrer dans le mal sans s'y perdre. Comme je le disais tout à l'heure, comment entrer dans le mystère du mal sans faire uniquement un point d'arrivée désespéré et désespérant. Et là, juste quelques pistes, mais déjà, je viens de vous parler de cet élève, et finalement, ce qui l'a décidé à y aller, c'est que, puis en cours, on a fait un petit cours sur ce que c'était qu'un tribunal. Et je lui disais, mais allez-y, c'est tout bête, hein, mais allez-y non pas pour vous, mais pour toutes les autres. Parce que cet homme-là, en plus, était un récidiviste, etc. Donc, la première fois, il n'avait pas été condamné parce que la personne ne s'était pas présentée. Je dis, mais à la limite, c'est même pas votre affaire. Et je leur avais donné un texte de Nietzsche dans La généalogie de la morale. Vous voyez, Nietzsche il dit la loi a été l'invention, la plus grande invention pour vaincre l'esprit de vengeance, l'esprit de ressentiment, l'esprit de tristesse, de rancœur, etc. Parce que une fois qu'il y a la loi, le mal qu'on fait à quelqu'un a été fait certes à quelqu'un, mais a toujours en même temps été fait à la loi. Vous voyez, à toute la communauté à cause de la transgression de la loi. Quand quelqu'un agresse une autre personne, certes, il y a cette personne qui a agressé, mais il y a toute la communauté qui a agressé, parce que la communauté a dit « tu n'agresseras pas ». Donc Nietzsche dit, finalement, avant la loi, celui qui était agressé, eh bien, il fallait qu'il rentre dans la vengeance, et s'il était impuissant, il était empoisonné par ce désir de vengeance qu'il ne pouvait pas s'extérioriser et se manifester par des gestes concrets vers l'extérieur. Mais une fois qu'il y a eu la loi, c'est comme si on lui disait, ton mal est le nôtre. Ton mal est le nôtre, ton mal est celui de toute la communauté. Et en effet, qu'est-ce que c'est que le tribunal ? En Occident, une invention occidentale, c'est de dire ce qui a été fait à cette personne, parce que c'est interdit, c'est toute la communauté, ça concerne tout à coup toute la communauté. Et donc cette personne peut se défendre sans être celle qui se venge. Vous voyez, au fond, se défendre, c'est en même temps servir le bien commun. Et se défendre, c'est servir le bien commun. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour les autres. Et voyez, chez cette étudiante, il y avait un vrai combat de dire, mais enfin déjà, j'ai envie d'oublier, donc j'ai pas envie de repenser à tout ça. Puis en plus, un tribunal, c'est vraiment refaire la scène, etc. C'est remettre les couverts. Bon, c'est très douloureux pour la victime aussi. Mais en plus, mais au fond, il y a déjà eu assez de mal. Il y a déjà eu. Et puis moi, j'ai pas envie de me transformer en monstre à cause de ce monstre, c'est-à-dire parce que il m'a gâché un an de ma vie, lui gâcher lui 4 ans de la sienne. Non, qu'on arrête. Bah oui, mais si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour toute la communauté. Et donc ça l'a aidé, si vous voulez, à se dire que, enfin, à y aller quand même, à y aller quand même, et à perdre son innocence première sans pour autant tomber dans... Enfin, à accepter de perdre son innocence première. Il m'a sali, il m'a pourri la vie, il m'a fait du mal. Et pourtant, j'y vais sans ajouter du mal au mal, voilà. Sans être purement dans la vengeance, puisque finalement, cet homme-là a en même temps enfreint la loi. Et je suis celui qui vient, même pour son bien à lui, celui qui vient lui rappeler la loi. Voilà, et puis deux autres pistes. Oui, reconnaître, ça c'était l'introduction, que ce mal qui m'a fait est aussi, et non pas surtout ou d'abord le mien, mais est aussi le mien. Mais là c'est très subtil, hein, c'est vraiment pas se dire que au fond on l'a bien mérité, c'est pas ça. Et vraiment, si on est agressé dans la rue quand on se baladait tranquillement, on l'a pas mérité, et on, voilà, il y a aucun châtiment qui s'abat sur nous à travers ça, il y a que du mal. Le mal est. C'est Simone Veil qui disait, toute justification du mal par autre chose que cela est, est un crime contre l'esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas justifier le mal. Hein? Toute justification du mal par autre chose que cela est, c'est-à-dire, ils ont agressé cette personne, est un crime contre l'esprit, disait-elle, je crois. Donc, c'est-à-dire que le pire, c'est de trouver des raisons au mal, c'est essayer de en fait, si je me promenais tranquillement et que j'étais attaqué, si je suis tombé dans la rue en hiver, je ne le mérite pas. Cela est, et cela me fait mal. C'est important. Et en même temps, peut-être que cette innocence qu'on perd, une fois que le mal nous a demandé de nous défendre contre lui, cette innocence qu'on perd, peut-être consentir à la perdre jusqu'au bout et à remarquer que ce mal nous a mis dans un combat spirituel. On a envie de tuer cette personne qui nous a fait du mal, on a envie ce combat spirituel qui était là, latent, et que le mal a révélé, mais que finalement, rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. Voilà, et puis, mais là c'est un peu exploratoire, j'espère que je suis assez clair, aussi par rapport à ce comment gérer ce mal qu'on me fait, ce mal subi, comment ne pas entrer dans son cycle, c'est évidemment le pardon. Et le pardon, je me disais en réfléchissant, le pardon, c'est peut-être vraiment maintenir son innocence, dire non, je ne l'ai pas mérité, personne ne mérite de se faire agresser, personne ne mérite, comme Job, de tout perdre en deux jours, personne. Mais le pardon, c'est quoi? C'est être assez au clair sur son innocence, donc bien séparer le mal subi du mal qu'on fait, c'est pas parce que je subis un malheur que je suis mauvais, d'accord? Finalement, être assez au clair sur son innocence pour pouvoir, eh bien, la donner à l'autre. Peut-être que le pardon, alors là c'est vraiment exploratoire, je confie ça à vous, et puis peut-être que après-demain je vous en reparlerai, mais m'est venue cette idée que finalement, le pardon, c'était... reconnaître comme Job, reconnaître comme on peut le reconnaître à propos du Christ qui était sans péché, reconnaître que le mal qu'ils subissent est injuste, donc reconnaître pour une part son innocence, et cette innocence étant reconnue, ne pas dire, eh bien si ça m'arrive c'est que je le méritais secrètement, cette innocence étant reconnue, eh bien avoir le pouvoir du coup de l'offrir à l'autre cette innocence qu'il essayait finalement de nous ôter, car tout coup qu'on donne à quelqu'un suscite le démon en lui et fait que le démon va vouloir répondre par un coup, et que la grande victoire, c'est que finalement il se met à se battre, et que c'est que j'ai entraîné l'autre, hein, comme veut faire Daesh avec nous, c'est-à-dire nous faire que nous soyons toujours plus monstrueux, aussi monstrueux qu'eux, et ils auront gagné, parce que plus nous serons monstrueux, plus ils pourront dire que, en effet, c'est qu'on l'était dès le début. Enfin, c'est terrible, le cycle du mal. C'est que, comme les enfants, c'est lui qui a commencé, et ou c'est comme avec les amis de Job. Une fois que Job blasphème, ou plutôt crie contre Dieu, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent dire, ah ben oui, en tout cas, si ça t'est arrivé sans que tu le mérites, maintenant tu le mérites. Ce qui est un peu bizarre, quoi. C'est comme enfermer quelqu'un en prison, et en prison, il devient inhumain parce qu'il est dans des conditions inhumaines, et dire, ah ben, on avait bien fait de l'enfermer. Bon, vous voyez. Et au fond, qu'est-ce que c'est? Comment le démon se joue de nous? Eh bien, l'autre nous fait du mal, ça réveille en nous une part de haine, de violence insoupçonnée, qui se déchaîne contre lui et qui donne toute raison au mal qu'il avait commencé à nous faire. Et au fond, bien être au clair sur le fait que c'est pas parce qu'on me fait du mal que je le mérite, au fond, mais je suis innocent, très important de dire non mais là c'était absurde, je veux bien dire que ce mal-là, je l'ai fait, mais pas celui-là. Hein. Vraiment, la beauté de Job qui clame son innocence, quand même. Eh bien, faire ça, c'est finalement peut-être avoir le pouvoir, à un moment donné, de ne pas rentrer dans la mécanique du mal et de pouvoir offrir son innocence à l'autre. Peut-être que pardonner, il y a quelque chose comme ça. Celui qui dit « pardonne-leur, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est Jésus, et Jésus est parfaitement innocent. Et au fond, c'est comme si demeurer innocent jusqu'au bout, eh bien, il pouvait nous faire entrer dans cette innocence nous-mêmes. Bon, ça c'est le mystère de la croix, j'en parlerai aussi un peu d'un point de vue philosophique, mais Jean-Gabriel se chargera de le faire. Ah, d'ailleurs, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », je trouve que c'est une phrase infiniment intéressante, c'est la première parole du Christ en croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », souvent je me suis demandé, parce que je me suis dit, mais quand on ne sait pas ce qu'on fait, en fait on n'est pas pardonné, on est excusé. Donc, quand on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, finalement on est ex causa, hors de cause, excusé, ex causa, excusé. Et là c'est pardonne-leur, c'est le pardon, et en plus c'est le pardon du Père. Comme si finalement ne pas savoir ce qu'on fait, être négligent par rapport au mal qu'on porte dans le monde, se croire innocent, complètement quitte du combat spirituel qui se joue dans la création, comme si ça, en fait, c'était le mal le plus terrible, celui qui requérait le pardon du Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, soit vous l'entendez par « ils n'y peuvent rien, ils ne mesurent pas ce qu'ils sont en train de faire, donc en fait, ne leur garde pas cette faute », soit vous pouvez entendre il faut le plus grand des pardons, le pardon du Père, parce que ne pas savoir ce qu'on fait, tuer l'innocent en croyant qu'on est dans son bon droit, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui, dans le monde, porte le plus de souffrance. Croire qu'on est dans son bon droit, ne pas savoir ce qu'on fait. On pourrait dire, mais le Père qui quitte femme et enfant, il n'avait pas mesuré, qui brisait la vie de ses enfants, que 10 ans plus tard, une de ses filles serait complètement paumée, parce que et puis que sa femme, il ne savait pas ce qu'il faisait, donc au fond, puisqu'il ne mesurait pas, il est excusé. Non, on pourrait dire l'inverse. Ne pas savoir ce qu'on fait, c'est ça qui est terrible. Être négligent, vous voyez, non pas nécessairement faire le mal, mais mal faire ce qu'on devrait. Être négligent, c'est peut-être une des sources les plus discrètes, mais les plus profondes du mal. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas forcément excuse-les, là ils se rendent pas compte. C'est peut-être vraiment ne pas se rendre compte. C'est tellement grave, c'est tellement originel par rapport au mal, que ce qu'il faut, ce qui est requis là, c'est carrément le pardon du Père. Enfin voilà. Je vais simplement juste soulever, là, pour vous donner envie, pour après-demain, et puis ouvrir votre réflexion, je vais soulever la deuxième partie de cette première partie, mais je me résume, j'espère que j'ai été assez clair. Le malheur et la malice ne sont pas la même chose, c'est important de les distinguer, parce que d'une part, quand on subit un malheur, on peut accuser, alors que parfois, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de mal, c'était la première idée. Et d'autre part, au contraire, quand on a un malheur, parfois, enfin, c'est pas les autres qu'on accuse, c'est soi-même, alors qu'il faut sans doute faire la distinction. Oui, certes, on n'est pas des anges, mais il y a du mal qui n'est pas méritée. Et c'est très important de savoir discerner ça. Voilà. Et juste donc pour ouvrir sur ma deuxième partie, j'aimerais bien vous montrer dans une deuxième partie que la distinction que je voudrais amener, la distinction que j'ai appelée conceptuelle, le malheur et la malice par exemple, distinction conceptuelle, il va falloir la porter au niveau même de la distinction entre le bien et le mal. Moi j'aimerais bien vous montrer que le mal est toujours un parasite du bien. Non pas vraiment ce qui s'oppose au bien, mais ce qui veut se nourrir du bien. Ça me paraît très très important. Le mal se nourrit du bien. C'est un parasite du bien. Et le mal a toujours les atours du bien. Il se cache derrière le bien. Il se cache derrière le bien. Il se nourrit du bien et il se cache derrière lui. Choisis la vie, choisis la mort. Évidemment, il y a vraiment un... Mais ce choix-là doit s'accompagner d'énormément d'intelligence. Parce que, évidemment, alors parfois c'est très simple, parfois c'est très simple. Et le mystère d'ailleurs qu'on explorera dans le deuxième moment de mon propos, c'est que parfois on a vraiment la mort en face de nous, on la reconnaît et qu'on la choisit quand même. Donc il y a des moments de clarté, de simplicité. Mais que, évidemment, la mort très souvent va se déguiser en vie et que même la mort va se nourrir de la vie pour nous prendre dans son piège. Et donc, dans un deuxième moment, et je voudrais juste initier le premier moment, le mal se nourrit du bien, il se cache derrière le bien, mais par rapport au fait que le mal se nourrit du bien, ça me paraît très très important de reconnaître, je vous ai dit, philosopher, c'est découper l'animal en suivant ses articulations, et bien au fond, l'enjeu, c'est, il y a quelque chose de la tumeur dans le mal. Il se greffe sur les organes de vie pour les épuiser, en les épuisant, en se nourrissant d'eux. Et pour pouvoir réaliser l'acte chirurgical, il faut voir que vraiment le mal est tout proche du bien. Tout proche du bien. Il se fait passer pour lui. Le mal ne peut nous piéger que parce qu'il contient en lui toujours une part de bien. Vous savez, comme le piège à souris contient vraiment une part de gruyère, donc une part de bien pour la souris, sinon elle n'y mordrait pas, et bien de la même façon, tout ce qui nous piège contient vraiment une part de ce que notre désir a de plus beau et de plus profond. On m'a demandé d'écrire un petit texte sur la pornographie, et je me disais, tiens, mais par où commencer? Et bien par le fait que, évidemment, la pornographie, si ça marche tellement bien, si ça piège tellement de gens, c'est que ça nous propose une part réelle de bien. Vraiment une part réelle de bien, et j'ai envie de dire même la plus belle part du bien. C'est-à-dire la pornographie est le singe de la charité. De la charité. Rien que ça, c'est-à-dire de ce que notre cœur désire le plus au monde, c'est-à-dire se donner entièrement à tous, ce que peut-être seul Dieu peut. Mais au fond, l'orgie qui était d'ailleurs ritualisée dans les sociétés primitives, se perdre absolument pour tous, c'est quelque chose qui peut nous attirer, parce qu'il y a quelque chose au fond de notre cœur, il y a un désir de ça, d'être tout à tous. Vous voyez, je vous cite juste Baudelaire qui disait, dans un poème qui s'appelle « Les foules », un poème en prose, « Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible auprès de cette ineffable orgie, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière. » Il appelle ça la charité. Et il lie la charité à une sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière. On dira, c'est Baudelaire, c'est le dandy quand même catholique, et qui, en effet, comme si vous voulez, Jésus qui non seulement fréquente les femmes, mais pardonne à la prostituée, comme si, en effet, dans la prostituée, Jésus reconnaissait quelque chose d'un désir maladroit d'aimer, hein, comme il dit de Marie-Madeleine, elle a beaucoup aimé. Donc c'est qu'en quantité, pas en qualité, c'est très maladroit comment elle a aimé, mais elle a beaucoup aimé. Et ça, Jésus y reconnaît qu'en effet, il y a une sorte de désordre de la charité qui voudrait se donner, hein, comme je recite Baudelaire, cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière. Et au fond, le spectacle de la pornographie, c'est le spectacle de personnes qui vont se donner charnellement tout entier, se perdre tout entier à n'importe qui, etc. Et au fond, on ne peut mordre que parce que ça vient singer, pervertir quelque chose qui est profondément en nous, et qui est profondément beau. Et ce que j'aimerais bien vous montrer la fois prochaine, c'est que finalement, à la source de notre péché, il y a en effet, c'est banal, hein, ce que péchar en hébreu, ça veut dire rater sa cible, mais évidemment, il y a quelque chose de très beau. Et même, il y a le plus beau. Et plus c'est beau, enfin voilà, plus le morceau de gruyère est de bonne qualité, plus la souris va s'y précipiter et plus le piège va se refermer sur elle. Et donc, il faut que le mal soit vraiment le singe du bien. Hein, Satan est le singe de Dieu. Il faut vraiment que le mal soit le singe du bien pour nous piéger. Si le mal arrivait en disant, écoutez, on va faire le plus de désordre possible, alors, ça peut nous attirer si on est nihiliste et tout, mais la plupart du temps, notre désir pressent quelque chose de sa vérité là-dedans, sauf que, vous voyez, si vous voulez, le piège à souris, il tient captif, et le gruyère, et la souris. Bon. Et au fond, il y a une vérité captive, on pourrait dire, par exemple de la pornographie, en sens qu'on voit des gens qui s'abandonnent, vous voyez, ça mime, ça singe, l'abandon même spirituel, qui s'abandonnent dans une débauche, dans l'orgie, hein. L'orgie, c'est très impressionnant. On avait encore des formes en Europe sous la forme du carnaval, mais il y avait des sacrifices humains, enfin des boucs émissaires qui étaient tabassés à mort. Il y avait des... là-dedans, ça répond à quelque chose qui est profondément dans le cœur de l'homme, qui est de sortir de soi pour se donner parfaitement et s'abandonner. Sauf que c'est le singe de l'abandon spirituel. C'est le singe du don de soi. C'est le singe, mais n'empêche que c'est le singe quand même, d'accord? Et voyez, au fond, peut-être il faudrait faire un travail, si vous avez des idées, vous me direz samedi, mais je suis sûr qu'on peut décliner tous nos péchés à partir de la grâce. Tous nos péchés singent la grâce. Qu'est-ce que c'est que voler? En fait, voler quelque chose, c'est forcer la grâce. Voler, c'est cette chose, j'attends même pas qu'on me la donne, je la prends. Vous voyez, c'est parce qu'on est fait pour la grâce, c'est-à-dire pour recevoir gratuitement, déjà cette vie qu'on a reçue gratuitement, mais aussi le pardon de Dieu, mais aussi tous les bienfaits. C'est parce qu'on est fait pour la grâce, qu'on est impatient de la grâce. Et comme le disait Tertullien au IIe siècle, le mal, c'est l'impatience du bien. C'est parce qu'on est fait pour la grâce qu'on va se mettre à voler. Même à mentir. Qu'est-ce que c'est que mentir? C'est ne pas savoir attendre. Le mal, c'est l'impatience du bien. Ne pas savoir attendre qu'on nous fasse confiance pour inventer la confiance que l'autre pourrait nous faire s'il nous donnait gratuitement sa confiance. Bref, parce qu'on est fait pour la grâce, on veut la forcer. D'accord? Vous voyez, même peut-être la prodigalité, le fait de dépenser sans mesure, de donner n'importe comment, ou de se donner à n'importe qui, dans la prostitution, dans l'orgie, dans la pornographie, c'est toujours cette grâce qui est fait qu'on est fait pour se donner, qu'on est fait pour recevoir, qu'on est fait pour se faire gratuitement confiance. On les force et ça donne mensonge, vol, prodigalité ou débauche. Et ce qui est très intéressant, je vais m'arrêter là-dessus, c'est que le christianisme va être une réponse très originale à cette forme-là que prend le péché. Autant la 16, que je vais dire très rapidement orientale, ça va être de dire, mais tu vois, tout cela est mauvais, et il faut t'en détacher, c'est illusion. Tout cela est mauvais, autant le christianisme va plutôt dire, voilà, par exemple, l'épicurisme va dire, le vin mène à la gueule de bois, donc exclut le vin. Le christianisme va dire, mais c'est parce que le vin est bon qu'il mène à la gueule de bois. Et c'est même parce qu'il est très bon qu'il va être attaqué pour devenir l'occasion de ton alcoolisme et de ta débauche. Le christianisme va avoir cette sagesse de dire « Mais c'est parce que c'est bon que le démon s'en empare. C'est parce que la sexualité est infiniment belle que c'est le lieu où le démon se déchaîne. C'est parce que le corps humain est une merveille que le Satan va en faire le lieu d'une adulation qui va rendre les corps anorexiques chez les mannequins, qui va rendre... C'est parce que c'est beau que c'est attaqué. Et non pas c'est parce que c'est mauvais que c'est un piège. Vous voyez, retenez juste le procédé du piège. Le piège doit contenir quelque chose de bon et de beau pour fonctionner. Ça, le christianisme va vouloir sauver le morceau de gruyère dans le piège, si vous voulez. Alors que vous avez des ascèses qui disent « Puisqu'on se sert de morceaux de gruyère pour faire des pièges, le gruyère est mauvais. » D'accord ? Voilà, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup de votre attention.